L'ubérisation, c'est exactement le symbole de ce qu'on peut appeler cette société post-industrielle, au sens où elle s'est contentée en quelque sorte de détruire les organisations industrielles qui pouvaient exister auparavant pour les remplacer par ce rêve qu'avait énoncé un grand patron français d'entreprise sans usine et d'usine sans travailleurs.
Et voilà qu'on annonce Uber sur le toit de Wall Street, n'en déplaise à l'économiste Daniel Cohen qui s'exprimait sur France Inter en septembre dernier. Ce sera la plus grosse introduction en bourse de l'année aux États-Unis le mois prochain. Elle valorisera le géant des VTC aux alentours de 100 milliards de dollars, près de 90 milliards d'euros, ce qui lui permettra d'en dégager 10 immédiatement disponibles pour financer sa diversification. De l'argent frais bienvenu car le géant n'est toujours pas rentable, mais fidèle à sa réputation et à son nom, il voit grand et pas que dans le domaine des courses en voiture. Les vélos et les trottinettes électriques débarquent à Paris. Uber répond présent via sa marque Jump. Jusqu'où ira l'ubérisation de notre économie? Des livreurs à vélo à l'hôtellerie en passant par l'artisanat, quel modèle économique et social? Il y a même des plateformes de jobs étudiants à prendre pour la journée qui font leur apparition. Autant de beaux sujets qui s'annoncent pour les spécialistes du droit du travail. La justice commence d'ailleurs à requalifier certains livreurs à vélo en salariés, car oui, estime-t-elle, il y a bien un lien de subordination et de contrôle avec les plateformes numériques qui les font travailler. À quand, réclamait encore l'Institut Montaigne cette semaine, un enrichissement des droits sociaux pour l'ensemble des travailleurs ubérisés.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine écho du samedi. Un grand merci en ce 13 avril à Lauriane Toulmont qui nous accompagne à la réalisation, Valentin Pérez à la préparation, sans oublier Raphaël Rousseau aujourd'hui en régie. En studio aujourd'hui, Fanny Guinochet, journaliste sur France Info et à l'Opinion. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Et bonjour Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économie.
Bonjour à tous.
Vous avez sorti vos boules de cristal pour savoir ce qu'Emmanuel Macron va nous annoncer dans les prochains jours, dans la foulée du grand débat.
On attend. En tout cas, le suspense est là, hein, parce qu'on nous a dit qu'il y aurait, des mesures puissantes.
C'est ce qu'on nous promet.
Prêt.
Effectivement, ce sera le thème de notre débat du jour. Nos impôts, nos retraites, notre logement. Tour d'horizon des principaux arbitrages en cours. Nos villes et nos campagnes, radioscopie de nos territoires. Ce samedi, on donne de la voix avec les élus locaux. On les a entendus beaucoup dans le grand débat, illustration des fractures entre les métropoles et leurs périphéries dans la région de Bordeaux. Nous en parlerons bien sûr avec notre invité Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts, qui finance une banque des territoires. Il nous en dira plus. Pendant ce temps, on n'arrête pas l'économie indienne. À l'ombre de la puissance chinoise, l'Inde attire les grandes entreprises. Nous y ferons un détour à l'occasion des élections législatives qui s'y tiennent en ce moment. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Fabien.
Pas besoin de partir en Inde pour trouver du travail, c'est ce que nous a dit Pôle emploi cette semaine.
Oui, c'est pas la peine d'aller à Bangalore. Les prévisions d'embauche sont au plus haut depuis 10 ans. Mais quel métier choisir pour être sûr d'être embauché?
On verra ça tout à l'heure. Merci Sandrine. Rendez-vous à 10h05.
Est-ce qu'il y aura des nouvelles tranches d'impôts? C'est possible. Certes, on rebat les cartes, mais pour quel virage fiscal? Emmanuel Macron va-t-il également jeter certaines de ses promesses de campagne?
Ce succès, celui du grand débat, ça n'est pas le succès du gouvernement.
Édouard Philippe.
C'est celui des Français.
Premier ministre.
De tous les Français. Et le président l'a dit, nous ne pourrons plus gouverner comme avant. Les débats, je le crois, nous indiquent clairement la direction à prendre. Nous devons baisser, et baisser plus vite, les impôts.
Monsieur le Premier ministre.
François Ruffin.
Je connais un bon notorino. Il peut vous prendre un rendez-vous quand vous voulez.
Député La France Insoumise.
Parce que ça me paraît l'urgence, tant vous êtes sourd. Et vous êtes sourd, sans surprise, de l'oreille gauche. Lors de la restitution hier, quelle demande mentionnait vos garants eux-mêmes? Le retour de l'ISF. Plus de tranches d'impôts. La TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Mais vous n'entendez pas.
Le président de la République a eu l'occasion de s'exprimer.
Sibeth Ndiaye.
Et il a indiqué que la sortie de ce grand débat national,
porte-parole du gouvernement,
ne devait ni être un renoncement par rapport aux réformes qui ont été menées. Donc il ne s'agit pas d'opérer un espèce de vaste tournant. Pas plus qu'il ne s'agissait non plus d'être dans l'entêtement.
Plusieurs pistes ont été mises sur la table, que ce soit de la part des membres du gouvernement ou de la majorité. Par exemple, réindexer les petites retraites sur l'inflation. Ou bien baisser l'impôt sur le revenu pour les contribuables qui sont en bas du barème. Mais à ce stade, Emmanuel Macron n'a pris aucune décision.
Il y a trop d'impôts en France.
Laurent Wauquiez.
Ça ne passe plus et on a des classes moyennes qui sont asphyxiées.
Président des Républicains.
Est-ce que je me réjouis que ce qu'on a proposé finit par être entendu? Bien sûr, j'ai pas changé d'avis, moi. Mais permettez-moi quand même une remarque. Quand ? Comment ? Où ? Quel impôt ? Quel rythme ?
Il y aura de toute façon une désillusion.
Jean Garrigue.
Si l'on se situe du côté des gilets jaunes, de leurs revendications.
Historien de la vie politique.
Qui sont d'ailleurs très souvent confuses, disparates, un peu irrationnelles. Il est évident que cette France délaissée, cette France malheureuse, cette France silencieuse, depuis 40 ans, ne va pas trouver des réponses immédiates dans le travail important du grand débat et des solutions qui vont être trouvées.
Fanny Guinochet, Christian Chavagneux, le gouvernement nous promet donc des annonces fortes et puissantes dans les tout prochains jours de la part d'Emmanuel Macron. Alors jouons à si j'étais président ou présidente, d'après ce que vous avez entendu du grand débat et de ses restitutions, quelles mesures emblématiques prendriez-vous au terme de ces 3 mois d'échanges intenses qui ont mobilisé tant de Français dans tout le pays ? Qui veut commencer ?
Bon, moi, les auditeurs seront pas surpris parce qu'à ce même micro, j'avais démonté le questionnaire du gouvernement qui montrait que les deux réponses que le questionnaire allait indiquer, c'était il y a trop d'impôts et trop de dépenses publiques. Et sans surprise, Premier ministre l'a dit cette semaine, le résultat du grand débat, c'est qu'il y a trop d'impôts et trop de dépenses publiques.
Il y a une exaspération fiscale.
Donc moi, je me suis plutôt intéressé parce qu'il y avait les réponses aux questions, mais il y avait les contributions spontanées. Et donc moi, j'ai été regardé dans la restitution du grand débat les contributions spontanées, un peu plus libres par rapport aux questions du gouvernement. Et moi, j'ai trouvé des mesures. Donc j'ai regardé uniquement les comptes publics et la transition écologique, d'accord ? J'ai trouvé 5 demandes et donc j'ai 5 mesures fortes à proposer à Emmanuel Macron.
Allez, on y va.
Très rapidement, plus de justice fiscale. Donc la mesure, c'est rétablissement de l'ISF et taxation des revenus du capital à 40%. C'est à 30% aujourd'hui. Deuxième gros sujet, taxer davantage les hauts revenus, nous disent les gens. Alors moi, j'accrois la taxation des gros héritages parce que les plus aisés héritent 2 fois plus que les plus pauvres et parce que les niches fiscales sur l'héritage profitent uniquement aux gros héritages. Et l'argent est redistribué pour fournir un patrimoine de base à ceux qui n'en ont pas. Troisième mesure, plus de dépenses de protection sociale dans la santé, nous demandent les gens. Vous savez qu'il y a 100 médicaments essentiels, nous disent les médecins, qui peuvent guérir 95% des pathologies. Or, on en a 4600 qui sont vendus sous 15 000 formes différentes. Donc on arrête de subventionner les labos pharmaceutiques. Avant-dernière mesure, développer les transports en commun, c'est un investissement public prioritaire. Dernière mesure, réduire l'utilisation des pesticides, c'est demandé par les Français. Monsanto vient de perdre encore une fois un procès cette semaine face à Paul François. Il faut voter la fin de l'utilisation des pesticides et encourager la transition vers le bio.
Le programme Chavagneux, exactement. Le programme Guinochet.
Alors c'est un programme un petit peu différent. Sur l'ISF, effectivement, je pense qu'il faut une mesure symbolique, mais c'est pas l'ISF que je pense qu'il faut rétablir. Déjà, ça donnerait un très mauvais signal. On parle beaucoup d'instabilité fiscale en France, que ce soit, c'est assez partagé, hein, pas que pour les populations aisées. Donc peut-être ouvrir l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière qui a été mis en place, parce que effectivement aujourd'hui les vraies distorsions de richesse et ces distorsions de richesse qui se s'héritent d'année à année, de génération en génération. Hein. Il y a une étude de l'OCDE qui montre qu'il faut 6 générations en France pour essayer de sortir du niveau où on se trouve. Et ces générations, la difficulté, ça vient d'un héritage immobilier. Donc, taxer plus largement le gros patrimoine immobilier, ça me semble être une nécessité. Donc, ça peut se faire par le biais de l'élargissement de l'IFI, on remonte le plafond. Ça peut aussi se faire par une histoire de droits de succession qui sont taxés pour le gros patrimoine. Mais effectivement, c'est une mesure...
On est d'accord, il faut que Macron...
Oui, mais c'est pas l'ISF, c'est différent.
Oui, j'ai bien compris.
Il y a une vraie différence sur l'ISF qui est censé aider, et on attend l'évaluation, il y a une évaluation qui est prévue, mais qui doit permettre de réinjecter de l'argent dans notre économie productive, et puis l'économie dormante, qui est le patrimoine immobilier, qui effectivement est source d'inégalités très importantes.
Et alors, pardon d'aborder le sujet qui fâche, mais qu'est-ce qu'on fait des réductions de dépenses publiques ?
Ah bah là, il faut
où
en faire.
Où est-ce qu'on va les chercher ?
Il faut en faire. Il y a plein de gisements. Alors évidemment, il y a une réforme de la fonction publique. Souvent, on parle des fonctionnaires. Sans stigmatiser les fonctionnaires, il y a effectivement des frais de gestion qui sont possibles. On l'a vu. On est quand même dans un monde qui est en train de changer, avec des besoins qui changent. Il y a le temps de travail des fonctionnaires. C'est dans la loi, mais c'est vrai que ça n'est pas possible qu'aujourd'hui il y ait tant de disparités et il y a un certain nombre de fonction publique où on ne fait pas les 35 heures, donc le fait de ramener tout le monde, on en fait 32 ou 33, le fait de ramener tout le monde à 35 heures, ce qui peut se faire, c'est la perte de jours, de quelques jours de RTT. Un certain nombre de collectivités locales l'ont fait. Ça n'a pas mis l'organisation du travail par terre. En sachant que, évidemment, ce genre de mesure doit se faire un peu avec dans la dentelle. C'est-à-dire que souvent, on met l'hôpital. On sait que l'hôpital, un certain nombre d'agents sont vraiment pressurisés. En revanche, je pense que dans un service support d'une collectivité locale, d'une grosse métropole, il y a un certain nombre de secteurs de services où on fait 32 heures, on pourrait en faire 35. Et ça serait un gisement de gains qui serait pas négligeable.
Ce qui est bien avec les journalistes libéraux, c'est qu'ils ont tous les mêmes arguments. Donc, on va répondre avec les mêmes arguments. Je pense qu'il n'y a pas de trésor caché.
Si on fait travailler, j'ai pas dit qu'il y avait un trésor caché. Attention.
Quand même, quelque part, si on arrive à faire travailler un peu plus les fonctionnaires et qu'on leur retire deux jours de RTT, on va gagner des milliards. Non, on va pas gagner des milliards. On va gagner quelques dizaines, quelques centaines de millions au mieux. Dans ce qu'a nous a donné le gouvernement, moi, je trouvais qu'il y avait une information très intéressante. Il nous a fait sur 1000 euros de dépenses publiques. Qu'est-ce qu'il y a, en fait? Et vous apercevez que sur 1000 euros de dépenses publiques, il y en a 575 de dépenses sociales. Et sur les 575 de dépenses de protection sociale, il y en a 270 en gros pour les retraites. Si vous voulez vraiment réduire les dépenses publiques, si vous voulez pas tourner autour avec des petites mesures sur 3 mairies et 2 régions, alors il faut taper sur l'État-providence. Et si vous voulez taper sur l'État-providence, et je l'ai dit, le plus gros de l'État-providence, c'est les retraites, il faut taper sur les retraites.
Alors, pour un décalage de
pour
l'âge.
Pour ceux qui veulent, moi je veux pas, mais pour ceux qui veulent.
Le haut commissaire, en tout cas, en charge des retraites, Jean-Paul Delevoye, s'en défend de faire une réforme comptable. Vous y croyez? Vous pensez que la tentation quand même existe de dégager des marges?
En tout cas, si on cherche à faire des économies, c'est clair, vous décalez d'un an, c'est 6 milliards d'euros qui rentrent. Donc là, pour le coup, on est loin de la petite mesurette.
Ça, c'est clair.
Là, au moins, c'est clair. Donc effectivement, après, c'est une question politique, c'est une histoire d'affichage. Est-ce que on fait comme l'ont fait les gouvernements précédents? En 2010, Nicolas Sarkozy, qui décale l'âge de la retraite, il fait rentrer de l'argent dans les caisses, mais il a un million de gens dans la rue. Mais il fait passer sa réforme. Donc ça, c'est une vraie... Là, la difficulté actuellement sur ce sujet pour le gouvernement Macron, c'est qu'on nous fait croire que ça n'est pas une visée budgétaire. Et on voit bien qu'il y a une polyphonie, pour reprendre le terme de Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux retraites, qui laisse à penser que, en fait, l'argument qu'il y a un flou derrière. Mais clairement, les retraites, c'est ce qui pèse le plus aujourd'hui dans la dépense publique. C'est 14% de notre PIB.
Mais Jean-Paul Delevoye nous a dit, on va rester à 14% du PIB. Or, demain, on aura plus de retraités. Donc, si vous restez à 14%, sauf à penser que la croissance française va être exceptionnelle, ça veut dire que demain, soit on baisse les pensions, soit on recule la retraite. On baisse les pensions, l'indexation des retraites sur les prix qui vont moins vite que les salaires. Ça fait que selon le Conseil d'orientation des retraites, le niveau de vie des retraités, qui est un peu meilleur que celui des actifs aujourd'hui, sera à 90-95% de celui des actifs en 2040.
Donc faudrait déjà cibler.
C'est déjà inscrit dans la loi aujourd'hui que les retraités vont en prendre plein la tête sur
vous l'avez précisé, il reste
aujourd'hui,
quand même.
Pour tous les scénarios du corps, demain, avec ce qui se passe, puisqu'on n'indexe plus sur les salaires, mais sur les prix, que les salaires vont plus vite que les prix, ça va baisser. Soit que l'âge de la retraite, Fanny l'a dit, un an c'est 6 milliards selon le corps, c'est ce qu'il faut pour financer la dépendance, on nous a dit, en 2024, entre 2024 et 2030, donc ils vont nous le vendre comme ça. Ah, je vous fais reculer l'âge de la retraite, mais c'est pour financer vos vieux jours.
Cela dit, c'est un choix, entre baisser un petit peu le niveau des pensions...
Mais il faut faire ni l'un ni l'autre, Fanny, il n'y a pas de déséquilibre.
Attendez, je termine, effectivement, la question de la dépendance, c'est un vrai sujet, ça concernera les retraités d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les retraités, d'après ce que nous dit Macron, certes, ils vont perdre en pouvoir d'achat un petit peu, mais ils ont encore un niveau de vie qui reste supérieur aux actifs, et ils ne seront pas touchés par la réforme, puisque la réforme en cours d'Emmanuel Macron ne devrait pas toucher les gens qui partent à la retraite dans les 5 ans. En revanche, ce sont ceux-là qui seront touchés par les difficultés de la dépendance, parce que c'est à 80-85 ans qu'on arrive avec souvent des problèmes d'autonomie, et c'est là où il y a des placements en EHPAD qui coûtent cher. Donc c'est pas inutile de trouver de l'argent et enfin de se poser la question de la dépendance, parce que tous les gouvernements successifs ont quand même mis le sujet sous le tapis pour trouver des financements.
Alors, autre sujet, toujours sur les dépenses, le logement. Faut-il toucher aux allocations logement, les fameuses APL, selon vous, Christian?
Bah, il faut arrêter de les baisser. Oui, il faut y toucher, mais il faut arrêter de les baisser. Pourquoi? Parce qu'on a deux problèmes en baissant les APL. D'une part, on s'attaque aux ressources des plus pauvres. On a commencé par 5 euros et après, on a oublié de le dire, mais on est plutôt à 60 euros par mois en moins. Et là, les bruits qu'on entend, c'est que le gouvernement pourrait peut-être, le président de la République pourrait peut-être arrêter de toucher à ça. Et de l'autre côté, il nous a dit oui, mais c'est pas grave, je baisse les aides, mais en contrepartie, je demande aux bailleurs de baisser les loyers. On voit déjà que bah, y a moins de construction de logements sociaux. Donc c'est vraiment, oui, il faut y toucher, il faut arrêter de les baisser.
Alors, sur les APL, c'est compliqué parce que effectivement, déjà, ils ont prévu d'arrêter d'y toucher. Hein. Quand vous regardez, visiblement, il devait y avoir des APL qui soient calculés plus directement, hein, alors qu'aujourd'hui, c'est sur le revenu des revenus d'il y a deux ans. Donc, visiblement, ce qui est dans les tuyaux, c'est qu'on va arrêter d'y toucher. Il y a le gouvernement met sur pause. Et c'est vrai que les APL, quand vous regardez, il y a une étude de l'adresse qui est assez éloquente à ce niveau-là.
L'adresse,
pardon, c'est le ministère, c'est la direction des affaires sociales et des statistiques, qui montre, donc une étude gouvernementale indépendante, qui montre qu'effectivement les APL, ça soulage essentiellement les gens qui ont des minima sociaux, pour lesquels finalement le logement, pour eux, est une part encore plus importante de dépenses contraintes sur lesquelles ils ne peuvent pas agir que pour d'autres, pour le reste de la population, et que ça permet de rééquilibrer. Maintenant, la question des APL, il faut peut-être quand même cibler, parce que on sait que sur les 6,5 millions de ménages concernés, vous avez par exemple des étudiants qui touchent les APL alors que leurs parents sont fortunés. Donc il faut peut-être, comme on l'a fait pour la prime d'activité, cibler un peu plus les ménages qui en ont plus besoin. Ensuite, vous avez les constructeurs, on parlait du logement social. Là aussi, on nous dit si on touche, ça va faire baisser les constructions de logements.
Ça fait déjà baisser les constructions.
Ça fait baisser, mais il faut peut-être regarder, il y a des villes où on a construit dans les villes moyennes des logements sociaux qui n'ont servi à rien, qui étaient extrêmement loin du centre, qui étaient mal desservis. Donc ça n'est pas la peine non plus. Il y a quand même derrière le totem des APL, je pense qu'il faut quand même regarder les aides au logement. Les aides au logement, c'est pas rien, hein, c'est 18 milliards d'euros.
Et est-ce qu'il faut aussi regarder les niches fiscales?
Alors effectivement, là aussi, là vous avez des études de la Cour des comptes.
Est-ce que ça rapporterait vraiment beaucoup? On nous dit pas tellement.
Bah, ça dépend lesquels quand même. Il y a beaucoup de choses dans les niches fiscales. Il y a des niches fiscales. Déjà, il y a les niches fiscales pour les particuliers, puis il y a les niches fiscales pour les entreprises. Le gros des niches fiscales, ce sont les entreprises. Donc là, peut-être qu'il faut regarder, mais il faut aussi, si on enlève des niches fiscales pour les entreprises, il faut aussi revoir le niveau d'imposition des entreprises, qui est beaucoup plus élevé en France que partout ailleurs, notamment les niveaux de les impôts sur la production. Okay. Du côté des niches fiscales, les niches fiscales immobilières, vous avez quand même un maquis entre le Pinel, je les connais pas toutes, mais le Girardin, c'est extrêmement confus. Ça effectivement s'adresse essentiellement aux ménages aisés. Ce sont eux qui font baisser leurs impôts via ces niches fiscales. Et il y en a un certain nombre qui ne sont pas efficientes parce que ça a par ailleurs fait augmenter certains niveaux de loyer. Ça a encouragé de la construction là où il n'y en avait pas forcément besoin. Vous avez un rapport, toute une littérature de la Cour des comptes. Alors après, on peut aimer ou pas ce que fait la Cour des comptes, mais qui vous dit que quand même, il faut jeter un œil, regarder plus précisément et faire un peu d'évaluation sur ces niches fiscales immobilières.
Les Américains appelle ça le corporate welfare. Toute la redistribution, c'est pas l'État-providence, c'est l'État-providence juste en faveur des entreprises. Et c'est là qu'il faut y aller. J'ai regardé, pour toutes les subventions que reçoivent les entreprises, il y a plus de 6000 dispositifs aujourd'hui. Plus de 6000. Et Gérald Darmanin, vous voyez que j'ai des bonnes sources, nous dit qu'il y a 140 milliards d'aides totales aux entreprises et que c'est beaucoup trop. Alors oui, c'est vrai que sur ce que Fanny appelait les impôts de production, c'est pas l'impôt sur les sociétés, c'est les impôts un peu qui sont liés à différentes choses. C'est vrai qu'en France, on est largement au-dessus des niveaux européens. Donc là, il y a peut-être un deal à faire avec les entreprises. On leur baisse un peu les impôts de production, mais en face, on diminue beaucoup sur ces 140 milliards d'aides aux entreprises. Et pour en avoir parlé avec des chefs d'entreprise, il y en a plein qui seraient plutôt d'accord.
Mais ce qui serait intelligent aussi, parce que les impôts de production, ça touche toutes les entreprises et ça touche les petites entreprises. Et ce ne sont pas les petites entreprises qui, elles, ont des juristes pour aller regarder du côté des niches fiscales, trouver le bon moyen d'avoir parmi le nombre conséquent de niche fiscale, de trouver la niche fiscale pour faire baisser l'impôt. Donc ce serait finalement une mesure de justice fiscale pour les entreprises, entre les grandes et les petites notamment.
En quelques mots, oui, non, Emmanuel Macron peut-il maintenir sa volonté de ne pas réintroduire l'impôt sur la fortune, Fanny?
Ah, je pense que s'il le fait, il va se renier, donc il faut qu'il le maintienne.
Bah, il peut maintenir, mais c'est une erreur.
Merci à vous deux. On part en Inde à présent, à l'étranger, très loin de notre grand débat national et de toutes ces questions sur lesquelles on reviendra évidemment tout ce début de semaine. En Inde, 900 millions d'électeurs qui sont appelés à renouveler leur parlement. Depuis avant-hier jeudi, un grand débat, très grand débat national là-bas, les opérations de vote vont prendre 5 semaines et forcément, le contexte économique et social va peser. Et on retrouve Sébastien Farcy à New Delhi. Sébastien, ces élections législatives interviennent alors que le gouvernement sortant de Narendra Modi a mis en place de nombreuses réformes économiques depuis 5 ans, notamment pour faciliter les affaires pour les grandes entreprises.
Oui, en effet, l'Inde a bondi de 65 places en 4 ans dans le classement de la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires pour se placer au 77e rang. Et les grandes entreprises étrangères installées en Inde ont noté ces améliorations. Témoignage de Germain Harrault, chargé de l'implantation en Inde, de la première usine de la marque française de sirop Monin.
Tout a été digitalisé en termes du processus d'incorporation des sociétés. Créer une filiale une fois que tous les documents sont prêts, aujourd'hui, ça peut prendre quelques jours uniquement. Le financement également a été simplifié par la Banque centrale indienne et un des gros efforts en termes de réforme du gouvernement en place au niveau central, ça a été la mise en place de la GST. La GST qui est un principe similaire à la TVA française, puisque avant l'Inde n'était pas une économie unifiée et la fiscalité indirecte est extrêmement complexe. Donc pour des entreprises qui sont dans ce secteur organisé, c'est une révolution.
Mais ces réformes ont eu du mal à être absorbées par les petites entreprises, notamment dans tout ce qu'on appelle l'économie informelle.
Oui, le système fiscal de cette GST est en fait trop compliqué pour les petits sous-traitants qui perdent des clients en ce moment. Or, ces PME du secteur informel emploient 90% de la main-d'œuvre. De plus, fin 2016, le gouvernement de Narendra Modi a fait dérailler l'économie indienne en imposant une démonétisation sauvage. Ces différents éléments ont fait augmenter le chômage, qui aurait triplé depuis 6 ans pour atteindre son plus haut niveau depuis 45 ans. Il y a en fait un problème structurel de l'emploi en Inde. D'un côté, vous avez une énorme population paysanne qui migre progressivement vers les villes, mais peine à y trouver du travail peu qualifié, surtout dans l'industrie, car celle-ci est de plus en plus automatisée. Et de l'autre, vous avez plus de 8 millions de jeunes diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. Or, le secteur tertiaire, qui représente le moteur de la croissance économique indienne, ne peut pas tous les accueillir. Le résultat très inquiétant est là. Avant, vous aviez un problème de sous-emploi en Inde. Les jeunes diplômés acceptaient des boulots peu qualifiés. Maintenant, même cela n'est plus possible. Ces jeunes ne travaillent plus du tout et le chômage explose donc.
Merci à vous, Sébastien Farcy, notre correspondant en Inde depuis New Delhi. En France, quel modèle économique pour nos territoires, pour nos villes et nos campagnes? Ce ne sont pas les projets qui manquent, mais souvent les financements. La Caisse des dépôts, souvent présentée comme le bras financier de l'État, a des solutions via notamment sa Banque des territoires. Le directeur général de la Caisse des dépôts, Éric Lombard, sera notre invité dans une dizaine de minutes. De quoi répondre? Nous lui poserons la question à ce diagnostic que nous sommes allés chercher dans la région bordelaise. Il n'y a parfois qu'à parcourir un département en voiture pour s'en rendre compte. La distance entre un centre et ses périphéries ne se chiffre pas qu'en kilomètres.
Attendez, je vais retirer ça.
Donc là, on quitte Bordeaux, direction.
Direction Castillon-la-Bataille. Jacques Breillat, je suis maire de Castillon-la-Bataille. On a traversé plusieurs zones différentes. D'abord, on a mis un peu de temps pour sortir de Bordeaux. Donc il y a la première zone, c'est la zone intramétropolitaine qu'il faut traverser, qui est souvent embouteillée. Ensuite, on a eu cette zone intermédiaire que je qualifie souvent de périurbaine, entre Bordeaux et Libourne. Beaucoup d'espaces pavillonnaires et des villages qui ont explosé en nombre d'habitants parce qu'une très forte pression démographique et de nouveaux habitants. Libourne est un peu à la jonction avec notre territoire du Castillonnais, du Libournais, de l'est du département.
C'est là que ça bascule.
C'est là que ça bascule. Là, on passe en zone beaucoup plus rurale. Beaucoup de travailleurs agricoles et de personnes qui sont en situation de difficulté sociale. 25% d'allocataires du RSA sur ma commune, un taux de chômage de 27%.
à l'ombre de la métropole bordelaise, à l'ombre aussi du florissant village de Saint-Émilion. Nous entrons dans un secteur en difficulté avec ses 3200 habitants. Castillon-la-Bataille se maintient démographiquement, mais a lentement décroché socialement et économiquement ces dernières années. Voilà une commune qui illustre l'une des multiples fractures territoriales qui segmentent le paysage français. Le maire que vous venez d'entendre se bat pour conserver sa trésorerie, pour accéder à des dispositifs de revitalisation, mais aussi contre les marchands de sommeil qui hébergent derrière de belles façades en pierre des travailleurs agricoles pauvres. Fracture territoriale, une mosaïque française. C'est un reportage de Claire Chaudière.
Nous voici donc à Castillon-la-Bataille, avec un petit rayon de soleil. Vous disiez qu'il y avait un contraste entre la carte postale et la réalité sociale.
C'est une ville magnifique. Une église, une vraie place de village, les coteaux viticoles des Castillons, côte de Bordeaux, puis la Dordogne qui coule au pied du village. C'est presque une image idyllique d'un village français traditionnel tel que pourrait s'imaginer un certain nombre de touristes étrangers. Voilà.
Presque.
Presque, parce que derrière ces façades, il y a aussi une situation de très grande fragilité sociale, avec des logements qui sont souvent indignes. On est toujours le pauvre de quelqu'un. Hein. La richesse de Bordeaux, elle n'a rien enlevé à ma ville. Simplement, peut-être qu'elle met en lumière encore plus les contrastes ou les différences, les écarts entre la situation des urbains et la situation de petits pôles de centralité ruraux comme les nôtres. Et on accueille aujourd'hui beaucoup de populations en difficulté.
Dis bonjour au maire.
Ça, c'est les jeunes du soir. C'est la zone de difficulté. Il y a des jeunes qui sont là tranquillement pour se réunir. Et puis après, il y a aussi des jeunes qui sont là pour se livrer à des trafics. Donc, il faut aussi gérer cette difficulté supplémentaire, qui n'est pas une difficulté à laquelle les bourgs ruraux étaient habitués. Hein. C'est plutôt une difficulté qu'on connaissait dans des quartiers dits sensibles ou difficiles. Alors, si je fais la liste des dispositifs auxquels nous avons pu accéder, c'est facile, il n'y en a aucun. Pas possible d'entrer sur la géographie prioritaire de la politique de la ville, parce que moins de 10 000 habitants, alors même que les indicateurs sociaux sont extrêmement dégradés. Pas possible non plus de rentrer en zone de revitalisation rurale, parce que quand on ajoute les territoires périphériques aux nôtres, eh bien, il y a aussi une certaine richesse viticole. Pas possible d'entrer sur cœur de ville. On les a tous testés, hein. On a fait les
Action
demandes.
Cœur de ville.
Action cœur de ville, voilà. Bref, à l'heure d'aujourd'hui, aucun des dispositifs de politique d'aménagement de l'État ne correspond à la maille à laquelle nous sommes, et c'est insupportable.
À Castillon-la-Bataille, on cherche des financements, des projets structurants, pendant qu'à 50 km à peine, Bordeaux se métamorphose, bénéficiant d'investissements lourds. Désormais à 2 heures de Paris en TGV, la métropole girondine a vu son activité économique et touristique boostée ces dernières années et son centre ancien populaire se rénover à vitesse grand V. Une gentrification observée à la loupe par un petit groupe d'élus et de chercheurs qui analysent l'évolution de la situation au sein d'un observatoire dans un petit local de la vieille ville.
Johanna Dagorn, sociologue, chercheuse associée au laboratoire LACES à l'Université de Bordeaux et également co-directrice des cahiers de l'LCD, qui est une revue de lutte contre les discriminations. Nous sommes dans le haut lieu de la touristification, qui est le quartier Saint-Pierre à Bordeaux. Très pauvre, hein, il y a une vingtaine d'années, et ensuite il a commencé à être rénové. Des appartements divisés en studios, de manière à augmenter la rentabilité. Là, c'est un salon de thé, encore un autre, encore un restaurant. Une cave à vin, forcément, étant donné qu'il doit avoir une cave à vin à peu près tous les 100 mètres. Donc ça rapporte. On revient au local, si vous voulez bien. La métropolisation, elle concentre les richesses. Donc c'est des vitrines qui sont très belles, qui ramènent de l'argent, en effet, aux commerces qui en vivent.
Des activités qui ramènent d'autres activités.
Exactement. Donc au niveau économique, ce sont des concentrations de réussite économique. Tout le monde dit, mais Bordeaux est très belle, Bordeaux n'a jamais été aussi belle, oui. Mais Bordeaux n'a jamais eu aussi peu de piscines, aussi peu d'équipements et de services pour ses habitants bordelais et bordelaises.
Donc on est là face à une ville, un cœur de ville confisqué aux habitants, on pourrait dire ça?
Alors, il n'est pas confisqué aux habitants riches, il est confisqué aux habitants pauvres.
Me voilà maintenant à la jonction entre deux quartiers de la métropole bordelaise, le quartier Bassin à Flot qui a poussé comme un champignon à proximité de la majestueuse cité du vin et le quartier très populaire de Bacalan, grosse histoire ouvrière. C'est la cité du Port de la Lune qu'on voit se dessiner là-bas au bout de la rue. Parmi les figures associatives de Bacalan, Stéphanie Boutret qu'on va rencontrer.
Bonjour.
Stéphanie donc. Là, vous êtes dans la régie de quartier.
Je l'ai vraiment senti au démarrage, cette fracture. Quand on a commencé à parler des déconstructions, quand on a vu toutes ces grues, quand on a vu tous ces travaux, c'était trop et trop vite et trop d'un coup en fait. Et on s'est dit comment on va faire ? On va être envahi, on va perdre notre identité, on va pas avoir assez de structure. Et puis ça va être que des bobos, des Parisiens qui vont arriver. Enfin voilà, c'est le cliché, mais on l'a tous pensé fort ça nous a inquiétés quand même. Aujourd'hui, quand même, 2-3 ans après, il y a des choses positives et des choses négatives. Dans les choses positives, c'est une ouverture, ça redynamise aussi un petit peu le quartier. Ça casse un peu l'histoire de ce quartier qui a été toujours montré du doigt. Bacalan, faut pas y aller, quoi. Hein. On passe pas les écluses, on n'y va pas. Mal famé, mal fréquenté, ça a redoré un petit peu l'image du quartier. Et de l'autre côté de la balance, ça fait flamber le prix de l'immobilier, quoi. Voilà, le quartier maudit où personne ne voulait aller, en fait, tout le monde veut acheter une maison. Et puis les bacalanais qui ont dû partir du quartier, qui voudraient y revenir, ils n'ont pas les moyens de racheter une maison, en fait. Hein. Et voilà.
Allez voir les jeunes là-bas.
En fait, ils ont fait des millions et des millions de constructions dans le quartier. Ils ont mis un pont à 15 millions. Et une cité du vin à 35 millions. Ils veulent changer cette image de Bacalan et l'appeler Bordeaux Maritime. Nous, on est nés à Bacalan. On n'est pas Bordeaux Maritime. Bordeaux Maritime, c'est une nouvelle façon pour attirer les Parisiens, les bobos et tout ça, pour qu'ils viennent, ils payent. Nous, on n'est pas des bobos. On est des pauvres. On est pauvres et on aimerait bien garder notre quartier. Au lieu qu'ils nous disent, oui, on va tout casser, on va tout rénover.
Dans la tour 3, il y a des appartements qui sont vidés, où les locataires, ils sont expulsés ou ils partent. Et sur ces portes-là, on met des plaques en ferraille. Donc quand on met une plaque en ferraille, c'est pour montrer que l'appartement, il sera inoccupé après. On n'est pas bête, on sait très bien qu'ici, c'est éphémère. Demain, ça va partir.
Des fractures entre territoires urbains et ruraux donc, mais aussi à l'intérieur des métropoles. Autant de dynamiques et de ruptures qui se sont renforcées à tous les niveaux durant la dernière décennie sous l'effet d'une accélération de la métropolisation et d'années de crise économique. Bordeaux est l'une des villes où ces contrastes se sont le plus accentués, mais elle n'est pas la seule, comme nous l'explique Hugo Bévor en charge des stratégies territoriales au Commissariat général à l'égalité des territoires.
On va se mettre. Allez.
Une grande carte sur la table. On essaye de caler avec des livres. Hop.
Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines métropoles qui arrivent à partager leur croissance, qui arrivent à créer un système de croissance en réseau. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui semblent avoir accentué les fractures. La métropole qui arrive le plus à partager la croissance qu'elle crée, c'est la métropole de Lyon. La métropole de Toulouse est une métropole qui arrive aussi à attirer le développement, où le fait d'être proche de la métropole mais en dehors de la métropole apparaît comme un atout. À l'inverse, les métropoles de Strasbourg, les métropoles de Lille ont des développements qui sont beaucoup plus auto-centrés et elles apparaissent comme des enclaves à l'intérieur d'un territoire qui ont plus de difficultés. Un territoire qui va bien, bien souvent une métropole, peut arriver à se mettre d'accord avec les territoires avoisinants pour créer une dynamique partagée, ce qu'on appelle les contrats de réciprocité. L'idée étant, en grand résumé, qu'une grande ville qui accueille des étudiants offre des chambres d'étudiants pour des personnes qui viennent du monde rural et qu'à l'inverse, le monde rural puisse apporter de la nourriture bio pour les cantines. Voilà. Donc d'avoir un espèce d'échange réciproque où chacun est intéressé au succès de l'autre.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, donc Corinne Luxembourg, je suis géographe, maîtresse de conférences en géographie à l'école d'architecture Paris-Lavillette.
Ce qu'il faudrait, c'est de réels dispositifs en direction des territoires. Les élus, il y en a plein dans les banlieues, dans les territoires ruraux, disent qu'il faut le maintien des services publics, par exemple. Pourquoi on les supprime de façon systématique alors que les élus disent « ça structure nos territoires, c'est ce qui permet aussi à la population de rester et de s'épanouir dans les territoires où elle choisit de vivre ». On est quand même... Et je crois vraiment au niveau européen dans cette mise en compétitivité des territoires, cette mise en concurrence qui est assez mortifère en réalité. Il y a une sorte d'injonction à être innovant et à s'en sortir tout seul. On identifie certains territoires comme pouvant porter des projets. Donc à chaque fois, on va demander de produire le projet. Et puis une fois le projet produit, on aura ou non les financements demandés. C'est la nouvelle logique. je pense pas que ce soit à la hauteur de l'enjeu dans lequel on se trouve aujourd'hui.
Fracture territoriale, une mosaïque française, c'était un reportage de Claire Chaudière.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10. On n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot.
Bonjour Éric Lombard.
Bonjour.
Vous dirigez la Caisse des dépôts, institution bicentenaire, présentée depuis sa fondation comme le bras financier de l'État. Un chiffre pour mesurer l'ampleur de la surface financière qui est la vôtre aujourd'hui, 48 milliards d'euros de fonds propres. C'est notamment vous qui gérez l'argent déposé par les Français sur le livret A. Vous financez le logement social et de nombreux projets en région via votre banque des territoires. Ces fractures territoriales comme celles qu'on vient de voir se dessiner dans le reportage, est-ce que c'est une fatalité selon vous? Est-ce qu'il y aura toujours des centres qui rayonnent et des périphéries un peu trop oubliées?
Alors ce n'est pas une fatalité et c'est le cœur de la mission de la Caisse des dépôts au travers de sa Banque des territoires. Et ce reportage il est passionnant parce qu'il montre bien qu'on a différents étages de développement dans notre pays et notre rôle c'est de veiller à l'équilibre entre ces différents territoires. On a Bordeaux, métropole typique, qui va bien, qui se développe. Et puis autour de Bordeaux, on a différents types de lieux. On a effectivement Castillon-la-Bataille, ça c'est les bourgs, il y en a des milliers en France, et on est en train de réfléchir à des méthodes pour mieux les aider, parce que ces bourgs, ils ont un rôle essentiel de centralité sur leur territoire, et donc le développement, l'équilibre de ces bourgs, des commerces, des logements sociaux, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est vrai, le maire a raison de le signaler, Jacques Breillat, nous n'avons pas assez de dispositifs pour ces bourgs, il faut qu'on y travaille.
Alors la question fait évidemment écho au grand débat, cette France périphérique, des villes moyennes, des bourgs qui ont donné de la voix ces derniers mois. Que retenez-vous de tout ce qu'on a entendu dans le pays?
Un besoin de rééquilibrage. Le projet cœur de ville qui a été évoqué par le maire, il est porté par 222 maires de villes de 10 000 à 100 000 habitants. Il y a une très belle réussite juste à côté de Castillon-la-Bataille, c'est Libourne, qui s'est engagé dans un programme de ce type il y a 2 ans. Les commerces sont revenus, le tourisme est revenu, un nouveau restaurant au bord de la Dordogne. Donc le dynamisme démographique est revenu. Et ça, ça a été financé largement par la Caisse des dépôts, mais aussi par d'autres acteurs. Et on peut faire revenir le dynamisme économique, y compris dans ces villes moyennes. Si on fait ça, on rééquilibre les territoires. 25% des Français vivent dans ces villes. Et donc on doit vraiment être un aménageur du territoire pour rééquilibrer.
Sur quelle ville précisément il faut cibler l'effort, celles qui voient leur centre se diversifier autant que les grandes métropoles? Quels sont les critères? Est-ce qu'il y a un ciblage?
Alors, on met l'accent sur les villes moyennes parce que ça fait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu de programme dédié pour ces villes-là et on voit bien que ça peut être des très très belles réussites et en plus il y a un bonheur de vivre dans ces villes. Je me suis déplacé par exemple dans des villes comme Roanne ou toutes ces villes typiques de la vie des Français sur lesquelles il y a un équilibrage en dehors des métropoles mais qui également équilibre. Et le redéveloppement de l'industrie en France, qui est un des grands mouvements positifs de ces derniers temps, on réouvre des usines en France. Et l'avantage, c'est que les usines, elles sont dans les territoires, elles sont pas dans les métropoles. Et donc ce rééquilibrage urbain, il est essentiel et il contribue à la lutte contre les inégalités. Parce que ce qui est dit dans ce reportage est vrai, il y a des inégalités fortes entre les personnes qui habitent dans les métropoles et les personnes qui n'habitent pas dans les métropoles. Et ces inégalités, les Français ne les supportent pas. Et ils ont raison de ne pas les supporter. Donc on doit contribuer à ce rééquilibrage.
Alors on parlait du grand débat. Le président de la République, Emmanuel Macron, ne devrait pas tarder à dévoiler ses premiers arbitrages. Qu'en attendez-vous, vous qui vous fixez comme ambition à la Caisse des dépôts, je vous cite, de faire grandir la France?
Oui, faire grandir la France. Quand on a créé la Banque des territoires, c'était il y a 1 an. Et c'était peut-être une réponse anticipée au mouvement qui est né et à la demande d'égalité que ça traduit.
Alors qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron?
On a une demande de déconcentration et de décentralisation, ça me paraît clair. Et on a une demande d'une plus grande égalité, égalité fiscale, vous venez d'en parler sur ce plateau, et puis aussi égalité des chances. Et là, les politiques d'accompagnement qu'on est en train de développer vont y contribuer, et ça je pense c'est très important.
Il y a aussi des économies à trouver. Faut-il, selon vous, demander au secteur du logement social d'en faire?
Le logement social est en train de se réorganiser. On a la chance en France d'avoir un secteur qui loge 17% des Français, mais qui est un peu atomisé. Donc la loi qui a été votée l'année dernière va pousser les organismes à se rapprocher les uns des autres. Et la Caisse des dépôts est en soutien absolument massif de ce secteur. L'année dernière, on a ouvert un plan de 10 milliards d'euros pour que la modernisation et la transformation de ce secteur se fassent. Il faut qu'on continue à construire des logements. C'est vrai que le niveau de construction a baissé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et donc on est en train de construire des plans pour maintenir ce niveau de construction.
Alors je reprends vos résultats annuels que vous venez de publier cette semaine. Votre Banque des Territoires a prêté pour 13 milliards d'euros l'an dernier, 12 pour le logement social et 1 petit milliard, si j'ose dire, pour les collectivités locales. Ça pourrait être plus dans l'avenir pour les collectivités, pour financer
alors,
ces projets.
Les collectivités locales trouvent aujourd'hui à se financer auprès des banques qui sont revenues sur ce marché. Elle s'en était éloignée après la crise de 2008. Et donc la Caisse des dépôts a plutôt vocation à intervenir là où les acteurs privés sont moins présents. En revanche, on est très très présent auprès du logement social dont vous venez de parler. Et puis moi, je souhaiterais qu'on investisse plus en capital pour soutenir notamment la transition écologique et énergétique. Et là, il y a aussi un énorme chantier.
Éric Lombard, la loi Pacte a été définitivement adoptée cette semaine à l'Assemblée. Parmi les nombreuses dispositions qu'elle contient, il y en a une qui vous concerne de près. Il s'agit de la création d'un grand pôle financier public, incluant la Banque Postale et CNP Assurance, qui ferait de vous le premier actionnaire de la Poste. Où en êtes-vous de ce colossal chantier? Est-ce que c'est bien embarqué?
Alors, le vote de la loi Pacte était une étape essentielle. On avait besoin de ce texte. On est en train de travailler pour caler le dispositif. Ce qu'il faut surtout dire, c'est que c'est pas une opération financière. C'est une opération à destination des territoires.
Qu'est-ce que ça va changer pour les territoires et pour les usagers au final?
Eh bien, nous allons donner à la Poste, par l'apport de CNP Assurance, plus des moyens pour faire vivre les 17 000 points de vente, que dans ces 17 000 points de vente, il y ait plus de services qui soient apportés aux Françaises et aux Français. Et puis ça va aussi renforcer la Caisse des dépôts qui, comme on l'a vu, finance le logement social, finance les collectivités. Et donc on aura un grand établissement public qui sera au service des Françaises et des Français sur tous les territoires et qui pourra faire plus, et notamment pour répondre aux inégalités dont on a parlé.
Et il y aura de la banque, de l'assurance, un guichet unique pour beaucoup de
Il y aura de la banque, de l'assurance, il y aura aussi un soutien aux missions de service public dans les territoires, avec par exemple le développement des maisons de services au public. Il y en a 1300. C'est une façon de mettre les services publics à disposition des personnes sur le terrain, dans les villes, dans les bourgs. Et on va pouvoir accélérer le déploiement de ces maisons de services au public au travers de ce projet commun entre la Poste et la Caisse des dépôts.
Alors, le sujet qui fâche, qui va contrôler ce nouvel ensemble? Il paraît que le ton monte entre les représentants de l'État et vous. On nous parle de dialogue intense. Ça veut dire que c'est la guerre avec Bercy, en fait?
Non, il peut pas y avoir de guerre entre l'État et un grand établissement public. Ce qui est prévu par la loi Pacte, c'est que la Caisse des dépôts sera majoritaire au capital de la Poste et au conseil d'administration de la Poste. Mais comme la Poste est un très grand établissement public qui existe depuis 600 ans, le président de la République va continuer à nommer le PDG ou demain peut-être la PDGR de la Poste, et l'État conservera des droits très éminents. Donc il n'y a pas de problème dans les discussions qui sont en cours avec l'État.
Avec Bercy?
Avec Bercy.
Pensez-vous qu'il serait possible d'éviter, puisqu'on parlait aussi du mécano financier, de passer par une OPA pour transférer vos actions CNP Assurance à la Poste? Ça semble un peu technique comme ça, mais c'est une question à plusieurs milliards d'euros pour le contribuable, car je précise qu'il faudrait de l'argent public qui vienne à ce moment-là indemniser les actionnaires de CNP Assurance.
Alors d'abord, ce ne serait pas l'argent du contribuable, ce serait l'argent de cet ensemble qui contribuerait. Donc on ne prélèvera pas d'impôts pour cela, mais c'est vrai que ce serait de l'argent public. Oui. Donc nous aimerions éviter cette OPA, puisque nous allons apporter 40% de CNP Assurance, qui est une magnifique entreprise d'assurance, à la Banque Postale. Nous allons demander une dérogation à l'AMF, dont c'est le mandat, et puis nous verrons la décision que prendra l'AMF. Et en fonction de cette décision, nous nous adapterons.
Une question d'ordre social, celle-là. Vous avez dans votre giron 5600 salariés. Serez-vous un des premiers employeurs à mettre en place un plan de rupture conventionnelle collective?
C'est vrai que c'est un sujet qui est en débat avec les partenaires sociaux. C'est une possibilité qui serait ouverte à des agents qui voudraient partir avant l'âge de la retraite. Je tiens à préciser deux choses. Ça ne peut se faire que s'il y a un accord majoritaire avec les syndicats. Donc si les syndicats n'en veulent pas, nous ne le ferons pas. Et si les syndicats majoritairement en veulent, nous le ferons. Et ce serait un plan de départ volontaire, donc ouvert aux collaborateurs qui ont d'autres projets. On ne cherche pas à en faire un outil de gestion des effectifs, parce que il n'y a pas de sureffectif à la Caisse des dépôts, mais c'est un outil qui peut être utile pour tel ou tel de nos collègues.
Ce serait une première dans le secteur public, en tout cas.
Ce serait une première dans le secteur public, effectivement. Moi, je pense que la flexibilité, encore une fois, quand c'est dans la protection des personnes, il faut toujours que ce soit avec l'accord des personnes concernées, ça peut être un avantage. Il y a des personnes qui, au bout de 20 ou 30 ans, dans la fonction publique, veulent avoir un projet entrepreneurial ou un projet familial ou un projet associatif. Si on peut les aider dans cette transition, on leur rend service, on rend aussi service au pays.
Merci beaucoup Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts. Merci d'avoir été notre invité en direct ce matin.
Merci à vous.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon, s'intéresse aujourd'hui aux besoins de recrutement des entreprises avec cette question de Vincent à Paris. Lui aussi, il a entendu que les prévisions d'embauche sont au plus haut. Quel métier choisir si on veut être sûr d'être embauché?
Effectivement, Pôle emploi a publié son étude annuelle sur les besoins de main-d'œuvre réalisée avec le Crédoc. Et cette année, avec 2 700 000 projets de recrutement, le retour vers le beau se confirme. Plus d'un quart des entreprises interrogées ont l'intention d'embaucher, surtout les plus petites, qui est plutôt bon signe. Alors Vincent, si vous regardez le top 10 de Pôle emploi, en volume, il faut être viticulteur, agent d'entretien, serveur, aide-soignant. Il y en a déjà beaucoup sur le marché de l'emploi, mais les entreprises en cherchent encore, souvent de manière saisonnière. À l'autre bout du spectre, on demande très peu d'artistes plasticiens, de contrôleurs des transports ou de sages-femmes. Mais le nombre de projets d'embauche ne fait pas tout, Vincent. La rareté de certains métiers leur donne une chance supplémentaire. Des couvreurs, des électroniciens, des ingénieurs en recherche et développement, il en manque beaucoup. Les entreprises se les arrachent. Il faut aussi regarder dans cette enquête quelles sont en pourcentage les difficultés de recrutement des entreprises. Une sur deux anticipe que ce sera difficile.
Sandrine, c'est l'éternelle question. On a pourtant beaucoup de demandeurs d'emploi. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas?
On a toujours trois écoles sur la question. La première vous dira que les chômeurs préfèrent rester chez eux. On va l'oublier, une abondante littérature montre que c'est faux. 40 millions de contrats courts sont signés tous les ans et ce sont majoritairement des chômeurs qui les acceptent et qui les enchaînent. La seconde école explique que certains métiers sont peu valorisés, mal payés, avec des horaires impossibles. C'est le cas dans les EHPAD ou dans l'aide à domicile. Bonne nouvelle dans l'enquête, 45% des projets d'embauche, c'est plus que l'an passé, devraient être en CDI. Mais CDI peut aussi signifier temps partiel subi. La troisième école justifie ses difficultés de recrutement par un manque de compétences. C'est vrai, l'OCDE le dit, en France, plus qu'ailleurs, nous souffrons d'un déficit de capacité relationnelle, de rédaction, d'expression, de résolution de problème, 23% des salariés sont sous-qualifiés par rapport aux postes occupés. Dans l'enquête de Pôle emploi, la moitié des employeurs déclarent vouloir former les salariés dans l'entreprise. Ça, c'est de bon augure. Il faudra aussi attendre que les 15 milliards d'euros du PIC, le plan d'investissement dans les compétences, portent leurs fruits. Si par miracle tous les chômeurs étaient formés, le chômage ne disparaîtrait pas. Mais la formation fait partie de la solution.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot, le Mag Éco baisse le rideau. On n'arrête pas l'écho, revient samedi prochain à 9h10. À la semaine prochaine.